Aujourd'hui, je vous présente la famille de Jean-Paul Ide, papa de la grande Mathilde, de 21 ans, et d'Axel, 16 ans. Et si vous êtes fan de BD, vous connaissez Jean-Paul, peut-être sous son autre chapeau pour sa collaboration pendant des années au magazine Cro, magazine humoristique, plus particulièrement les aventures de Jérôme Bigrand. C'est l'auteur, Jean-Paul, aussi des Tondeuses et des Hommes, ainsi que Le fond du trou que j'ai sous les yeux. Et bon, il a collaboré à plein d'autres projets et magazines. Comme vous le savez maintenant, je me suis inspirée du parcours de Jean-Paul, ses engagements, et ils sont nombreux, ses défis, ses intérêts pour bâtir l'émission. Jean-Paul Ide, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Merci de nous présenter cette famille qui est la vôtre. On peut voir cette photo en ce moment qui circule sur nos médias sociaux avec Marie-Mathilde. Marie, votre conjointe Mathilde. Mm-hmm. Mathilde, votre grande fille et... bien sûr, Axel, une photo qui date d'à peu près 2 ans.
Je ne sais pas trop, en fait. Je le regarde, Axel, ça fait peut-être même un petit peu plus que ça, parce que sur la photo, je le tiens, il est assis sur mon ventre, et aujourd'hui, ça sera à peu près impossible.
Parce qu'il est grand, Axel.
Oui, il est grand. Moi-même, je suis une grande échalote, puis je pense qu'il tient plus des gènes de son père que de sa mère, de ce côté-là. Donc, c'était une époque, c'est ça, où on était encore capable de faire des culbutes, de faire des crises de chatouille et de se rouler dans l'herbe avec lui, c'était encore faisable.
Jean-Paul, Axel, il vit avec une paralysie cérébrale qui entraîne de multiples handicaps chez lui. Comment ça se manifeste?
Bon, alors Axel, multi-handicapé, paralysie cérébrale, donc évidemment un handicap moteur qui l'empêche de marcher. Il est en fauteuil roulant, il ne peut pas le mouvoir par lui-même, il ne peut pas manger, donc il faut lui donner à manger. Évidemment, tout ce qui est soins d'hygiène, ce n'est pas lui qui peut s'en occuper. Et il ne parle pas, mais il communique avec un tableau de pictogramme. Évidemment, parce qu'il a aussi une déficience intellectuelle. Donc, c'est souvent assez laborieux de communiquer avec lui. Il réussit à faire des phrases courtes et des besoins. Il manifeste ses besoins immédiats. Bon, je veux écouter la télévision. J'ai faim. Je veux voir grand-mamie, par exemple. Alors, c'est de cet ordre-là. Et donc, c'est ça. Axel est vraiment dépendant de nous. Dans toutes les sphères de sa vie. Il a quelques activités où il est capable d'être autonome. Il adore la lecture, même s'il n'est pas capable de lire. On passe à la bibliothèque au moins une fois par semaine. On écume les bibliothèques de la ville de Montréal.
Est-ce qu'il aime la BD?
Il commence à aimer la BD. Oui. J'ai trouvé quelques titres qui le fascinent, mais il faut le lire avec lui parce qu'il ne suit pas nécessairement le sens de lecture. Et évidemment, il adore tout ce qui est télévision, bien sûr, mais aussi quelques jeux vidéo adaptés pour un âge préscolaire. Ouais. Et là-dedans, il est autonome.
Et il a plein d'amis. C'est un rayon de soleil.
Oui.
On y reviendra tout à l'heure, Jean-Paul. Je vais parler un petit peu de sa naissance. Donc, grossesse, tout ce qu'il y a de plus régulière, accouchement ou naissance. Horrible.
Oui, oui.
À ce moment-là, bon, on ne se doute pas qu'il y a nécessairement un problème. À 3 mois, vous avez peut-être un indice. Mm-hmm. Vous écoutez des cassettes, des balbutiements.
Oui, c'est ça.
Vous arrivez peut-être à faire une comparaison avec votre grande Mathilde. Mm-hmm. Parce que, bon, vous êtes parent déjà à ce moment-là. Vous êtes passé par différentes étapes. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là à l'écoute de ces cassettes-là?
Alors, en fait, on écoute une cassette qu'on avait enregistrée. Moi, je faisais parler Mathilde. Mathilde qui est née à peu près à la même date. Donc, en disant, bon, 2 avril, etc. Et j'entendais le développement de ses balbutiements, les premiers mots qu'elle disait. Et on réécoute cette cassette-là. Et là, on se rend compte qu'en fait, ce qu'on entend, ça n'a rien à voir avec ce qu'Axel émet comme son. En fait, il n'émet à peu près pas de son. Et là, ça a été le premier indice. On est allé voir avant tout du côté de l'ORL, savoir est-ce qu'il y aurait un problème de surdité, est-ce qu'il y a un problème de corde vocale. Après plusieurs semaines d'investigation, on ne sait toujours pas, et c'est à ce moment-là qu'on va en clinique de développement. Et là, devant un scan, on voit qu'Axel a des lésions au cerveau. Et là, ben, c'est clair, c'est vraiment une paralysie cérébrale.
Oui, à peu près vers 6 mois. Et à ce moment-là, ce qui vous survient peut-être en tête, et à Marie également, c'est quoi ça, la paralysie cérébrale?
Exactement. On n'a absolument aucune image, sinon que celle des télétons de l'époque. Évidemment, qu'est-ce qu'on fait? Premier réflexe stupide, c'est d'aller sur Internet et de lire des trucs qui ne sont pas représentatifs. C'est évidemment des exemples, mais sur lesquels on ne peut pas se fonder. Et ce qui est particulier avec la paralysie cérébrale, c'est que c'est des accidentés, au même titre qu'il y aurait des accidentés de la route. Il n'y en a pas deux pareils. Oui. Les lésions ne sont pas nécessairement au même endroit. Et le cerveau est très malléable, surtout quand les enfants sont jeunes. Il y a des facultés qui peuvent migrer d'une région à l'autre, ce qui fait qu'il est très difficile de prévoir le développement de l'enfant. Donc, il ne parle pas, mais est-ce qu'il parlera un jour? Est-ce qu'il va être capable de développer telle faculté ou telle autre faculté? On est dans le néant et on avait beau essayer auprès de tous les thérapeutes qu'on a rencontrés, essayer de savoir où est-ce qu'il pouvait se situer dans le spectre du handicap, c'était très difficile d'avoir des réponses. Et aujourd'hui, je le comprends, en fait, parce que tout était à faire. Il y avait énormément de développement qui était encore possible avec des thérapies, mais en même temps, on est dans le néant. C'est-à-dire, on est obligé de... C'est vraiment au jour le jour de se dire... C'est des petites réussites. Axel est tout à coup capable de tenir la balle, est capable de redresser sa tête. C'était de cet ordre-là. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a fini, qu'on est passé à travers avec de l'aide jusqu'à aujourd'hui.
À ce moment-là, arrive la ronde de tous les services, ouais, de tous les spécialistes, de tous les rendez-vous, et aussi ce que vous avez commencé à nommer, Jean-Paul, ce néant-là, aussi des services et de l'accompagnement, ce qui a fait de vous, et probablement que vous l'aviez déjà très fortement à l'intérieur, ce militant-là, de militer pour les droits de vos enfants, de tous les enfants, pour les services, et de se rendre compte que bien souvent et malheureusement, ce sont les premières victimes des coupures du système.
Oui, tout à fait. Moi, je suis, comment je dirais bien, je pense que j'ai été élevé par une mère qui était très près. Elle a travaillé beaucoup dans tout le domaine de l'immigration, l'accueil des immigrants, et j'ai baigné là-dedans, moi. Donc, les causes de ces gens-là, de la différence, en fait, ça m'a toujours beaucoup touché, même si je n'étais pas personnellement touché par ça. Et quand Axel est arrivé, là, je pense que c'est revenu un peu de façon naturelle. Et là, on s'est rendu compte, en fait, qu'il y avait une espèce de double discours où on nous disait, c'est en ce moment qu'il faut faire des tas de choses. Il est jeune, tout est à faire. Si on veut qu'il apprenne à parler, si on veut qu'il apprenne à employer un tableau de communication, si on veut qu'il apprenne à marcher, il y a des thérapies qu'il faut faire et c'est maintenant qu'il faut les faire. Et d'un autre côté, on vous dit, ah ben oui, mais il y a des coupures, il n'y a pas d'orthophoniste. Une espèce de contre-discours qui faisait qu'on était au milieu de tout ça, à devoir prendre des décisions et à devoir frapper aux portes et des fois lever le ton pour dire non, là, ça suffit. On nous promet des choses, on nous dit qu'Axel a besoin de certains services pour son développement, mais en même temps, on n'est pas capable de nous les offrir. Et dans ce cas précis, et c'est là qu'il y a vraiment une injustice devant laquelle moi, je ne peux pas laisser passer ça. C'est des enfants qui sont... C'est les citoyens les plus vulnérables de notre société. C'est ceux qui ne pourront jamais prendre le micro simplement parce qu'ils n'ont pas les mots. Et de se dire que quand on coupe au bout de la chaîne, c'est ces gens-là qui vont payer. Moi, je trouve ça complètement inacceptable.
Je veux parler avec vous, Jean-Paul, de ce court récit, cette très courte BD que vous avez créée en 2012, un collectif Montréal-Lyon. Mm-hmm. C'était, je pense, des BDistes de la France et d'ici.
Oui, en fait, on nous avait contactés pour faire une espèce d'échange entre des auteurs de Lyon et des auteurs de Montréal. Et le but de l'exercice, c'était que chacun allait montrer un aspect méconnu de sa ville. Alors évidemment, à Montréal, il y en a qui ont parlé de Schwartz, du cimetière du Mont-Royal, etc. Moi, je me suis creusé la tête en me disant probablement que ce que je connais comme secret le mieux gardé, c'est probablement l'école de mon fils, qui à l'époque était Victor Doré.
L'école spécialisée.
Primaire, et je la connaissais par le truchement du service de garde parce que c'était par là que je réussissais à rentrer dans l'école et à avoir un contact avec les enfants. Ce qui fait que j'ai décidé sur deux pages de finalement présenter un petit peu la faune, entre guillemets, qui m'accueille tous les jours à 4h ou 4h30 quand j'allais chercher mon fils. Et les premiers qui me sautent dans les bras, les autres qui chantent et ceux qui jouent à cachette.
Axel qui se cache dans le garde-robe.
Axel qui se cache toujours à la même place. Et puis moi, je dois faire semblant que je le cherche, que je le trouve pas. Et en fait, toute l'astuce de cette bande dessinée-là, c'était de parler de tous ces enfants-là qu'on voit, dont certains sont en marchette, d'autres sont en fauteuil, mais en ne mentionnant jamais l'handicap, en ne parlant que des particularités, des personnalités de chacun, et de dire qu'en fait, voilà, c'est probablement le secret le mieux gardé de ma ville.
Ouais.
Parce que c'est des enfants qui sont invisibles, c'est des enfants qu'on ne voit pas dans les cours d'école, c'est des enfants qu'on ne voit pas dans les ruelles, qui ne jouent pas au hockey.
On ne voit pas dans les parcs.
On ne les voit nulle part, ouais. C'est ça. Et pourtant, derrière ces vitres-là, les vitres de cette école-là, il y a toute une vie. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce qu'on a beaucoup d'appréhension, à l'idée d'aller dans une école comme ça, d'être secoué, moi, c'était ma bouffée de fraîcheur de la journée quand j'allais là. C'est du bonheur incarné, j'allais dire du bonheur sur roulette, là, mais c'est vraiment ça. C'était des enfants foncièrement heureux.
D'ailleurs, vous avez donné comme titre à ce cours ici « L'école des enfants invisibles
mm-hmm. ».
On en parlait tout à l'heure, invisibles, oui, bon, dans
oui.
les parcs, dans les mm-hmm. lieux, mais dans la société
oui.
et auprès des décideurs aussi.
Exactement, oui, c'est ça. En fait, c'est un des problèmes, en fait, je dirais, des personnes handicapées, c'est qu'on les ghettoise. En voulant leur offrir des services, on leur offre des services et c'est pas de l'intégration, ce n'est pas de l'inclusion. On leur offre une école juste pour eux. Moi, j'aurais rêvé d'une école où il y aurait eu des périodes où ils auraient pu être avec une classe ou une école affiliée, où ils auraient pu avoir des activités ensemble, parce que je prends pour exemple l'époque de la garderie. Jamais Axel n'a fait autant de progrès qu'au moment où il était avec des enfants non handicapés, avec des enfants qui grimpaient après les rideaux, qui faisaient des bêtises. Lui, il voulait faire la même chose. Et je dirais que même les thérapeutes de l'époque devaient venir en garderie pour voir de leurs yeux ce qu'Axel était capable de faire, parce qu'ils n'étaient pas capables de le voir en thérapie. Tandis qu'à la garderie, en voulant faire du mimétisme avec les autres amis autour, tout à coup, on se rendait compte qu'il était capable de faire des choses qu'on ne soupçonnait pas.
Oui. Et Axel, c'est un jeune homme qui est heureux au contact des autres aussi.
Oui, oui. Ça, très tôt, on l'a mis en confiance. Il est passé de main en main. On l'a fait garder par toutes sortes de monde. On savait que pour accueillir cet enfant-là, il fallait que lui fasse l'effort, et l'effort qu'il avait à faire, c'est d'être capable de faire confiance aux gens autour de lui.
Mm-hmm.
Donc, il y a eu évidemment énormément d'intervenants, mais dans notre entourage aussi, on a été gâtés. On a été gâtés parce que dans la famille, il y a des gens qui nous ont aidés, qui nous ont offert même de garder Axel, qui sont allés au-devant de ce qu'on exprimait comme besoin. Et Axel a eu comme ça un très grand cercle social autour de lui, même si évidemment, à cause de sa déficience intellectuelle et de ses limitations, son interaction est quand même limitée, mais c'est un enfant qui est foncièrement heureux quand il y a du fun qui est pogné autour de la table. C'est une éponge, il est très heureux, même s'il ne participe pas aux conversations. C'est vraiment, je dirais que c'est l'endroit où il est le mieux, c'est en groupe.
Oui. Il y a aussi cette relation toute particulière avec sa grande sœur, Mathilde,
oui,
qui est en Europe en
oui,
ce moment.
Oui, en ce moment, oui, tout à fait.
Mais ils arrivent à communiquer
oui.
par Skype.
Ben oui, et Axel demande de parler à Mathilde par le iPad. Il dit « Mathilde, iPad » ou « Mathilde, téléphone » parce qu'il veut lui parler. Il ne comprend pas encore trop l'idée de dire « bye-bye » à un téléphone. Il nous regarde d'un drôle d'air quand on lui dit que la conversation est terminée. Mais oui, il demande à la voir. Mathilde fait toujours partie de sa vie. Il faut dire que Mathilde, de 5 ans son aînée, ça a été très rapidement la troisième adulte de la famille. Ça a été quelqu'un d'extrêmement significatif pour Axel, et c'est quelqu'un de très généreux, je veux dire, je pense qu'elle a...
L'empathie infusée,
l'empathie,
là.
L'empathie, exactement, et puis à cause de la réalité qu'on vivait à la maison, c'est quelqu'un qui a été, très facilement, elle va aider, elle va se proposer.
Elle est au-delà des besoins.
Elle est vraiment, voilà, elle sait ce que c'est.
Jean-Paul, souvent, lorsqu'on parle à des enfants en situation de handicap, on entend cet isolement-là qui les guette, une espèce de pas de rejet de la société, mais de soi-même s'isoler, je dirais. Et dans votre cas, c'est pas du tout ça que j'entends. Il y a un réseau, un tissu social très, très riche
mm-hmm.
qui s'est greffé à vous, que vous avez entretenu aussi.
Oui, tout à fait. Nous autres, on s'est dit... En fait, les parents, on est aussi des bêtes sociales. On a un grand réseau d'amis. Puis Axel a toujours fait partie de ça. Un grand réseau de la famille aussi. Mais je dirais que c'est quelque chose qu'il faut entretenir et il faut se forcer pour l'entretenir. Et en vieillissant, c'est un peu ça qui me fait peur, honnêtement, qu'on parlait de l'après 21 ans. L'après 21 ans, c'est ça. C'est évidemment, on rêve d'avoir un lieu accessible, un lieu adapté pour lui. Mais moi, quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est la socialisation. Si ces enfants-là, on ne leur donne pas de service, c'est que le gouvernement, tout ce qu'il fait, c'est devant cette absence-là de service, c'est de nous donner un chèque, un crédit d'impôt. Ben voilà, mon fils, il va rester chez moi et c'est moi qui dois devoir faire toute l'organisation pour essayer de lui former un cercle social, de lui suivre, de lui trouver des amis. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. On a besoin d'avoir de véritables services. Et des services, évidemment, c'est des services de thérapie, mais c'est aussi un lieu où ces enfants-là vont pouvoir socialiser, vont pouvoir avoir une place dans la société et qu'on puisse les sortir des petits ghettos où ils sont pour que les gens arrêtent de dire des inepties sur les handicapés, des inepties sur ce que ça coûte adapter des édifices ou adapter des autobus, parce que, soi-disant, ils n'en voient jamais. Mais c'est ça, c'est qu'il faut les voir, il faut que ces gens-là aillent sur les trottoirs, aillent dans les centres d'achat, qu'on les voit et qu'ils fassent partie de la société aux yeux de tous.
Oui.